Si 2025 ouvrait la voie à vos plus grands succès, excellente année 2025. Banque Atlantique vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, profitez-en, ce n'est pas tous les jours vendredi et dans 30 minutes, vous le savez, c'est la libre antenne, c'est l'occasion pour vous tous et vous toutes de commenter l'actualité de votre choix. Tous les sujets nous intéressent et d'ailleurs, vous êtes toujours aussi nombreux à nous contacter du Tchad pour réagir aux propos de Succès Masra, l'opposant qui se dit prêt à travailler avec le président Mahamat Idriss Déby. « J'ai confiance en lui », a-t-il déclaré. On nous interpelle également sur le projet du Premier ministre sénégalais d'appliquer la réciprocité des visas, des réactions aussi sur le rapport retraçant le passé colonial de la France au Cameroun. Plusieurs d'entre vous souhaitent parler football. Eh bien, on prendra le temps de parler football après le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, non, on a encore des réactions sur la date choisie pour l'élection présidentielle au Gabon ou encore sur le départ définitif. Ça y est, c'est officiel depuis mercredi du Mali, Burkina Faso, Niger, de la CDAO. Les sujets ne manquent pas. Vous êtes les bienvenus. On vous attend. 33 9 693 693 70. N'oubliez pas, tiens, dans un petit quart d'heure, Jessica Taïeb, qui nous rejoindra avec sa chronique hebdomadaire sur les réseaux sociaux, un œil sur les réseaux. Elle nous parlera du sujet qui fait le buzz cette semaine sur TikTok, WhatsApp, Facebook et autres. Mais d'abord, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction. Valérie Gasse, du service politique, est à mes côtés. Bonjour Valérie.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
On vous a demandé de venir car on a des questions après les propos polémiques du Premier ministre français sur l'immigration. Et c'est Willy qui souhaite vous les poser. Bonjour Willy.
Bonjour Anne Gomez, comment allez-vous?
Bah écoutez, ravi de vous avoir. Merci de nous appeler de Lubumbashi en République démocratique du Congo. On vous écoute avec Valérie Gasse.
Ok, bonjour Valérie Gasse.
Bonjour Willy.
J'ai une préoccupation. À l'Assemblée nationale, François Bayrou a été fortement critiqué pour avoir soutenu l'idée d'un sentiment de submersion migratoire à Mayotte. Maintenant, ma question est de savoir comment expliquer de tels propos souvent attribués à l'extrême droite.
Et des propos qui ont suscité un tollé à gauche et principalement au Parti Socialiste. Valérie Gasse, comment expliquer de tels propos dans la bouche du Premier ministre François Bayrou?
C'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question. François Bayrou pense, il l'a dit dès son discours de politique générale, que l'acceptabilité de l'immigration est une question de proportion. Alors ça veut dire qu'au-delà d'un certain seuil, il estime qu'il peut y avoir un sentiment de rejet de la part de la population française, surtout quand il s'agit de migrants clandestins. Et c'est en répondant dans une interview à une question sur ce point précis lundi soir que le Premier ministre a développé en quelque sorte son explication en partant de l'exemple de la situation à Mayotte où la part des migrants est selon lui de 20 à 30% et provoque en effet un rejet. Alors ce qu'il a dit, pour donner la phrase complète qui est intéressante, oui. Je le cite, « Je pense que la rencontre des cultures est positive, mais dès l'instant où vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, les modes de vie, la culture, dès cet instant-là, vous avez rejeté. Le Premier ministre a donc fait part du sentiment que certains Français peuvent avoir dans des zones à forte densité de population immigrée.
Mais c'est vrai, Valérie Gasse, que le mot submersion n'est pas neutre.
Et oui, il fait partie du vocabulaire de l'extrême droite et fait tout de suite penser notamment à la théorie du grand remplacement dont certains responsables politiques comme Éric Zemmour ont fait un argument électoral en présentant l'immigration comme un danger. Et c'est ça qui a fait bondir à la gauche et qui a réjoui le Rassemblement National. Mais ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que cette polémique autour des propos du Premier ministre a surtout animé la classe politique. Un sondage a en effet montré que 64% des Français pensaient que François Bayrou avait eu raison d'employer cette expression et 74% des personnes interrogées estiment même qu'il y a aujourd'hui dans la population française un sentiment de submersion migratoire.
Et c'est un ressenti constaté également par 58% des sympathisants du Parti Socialiste, si on en croit ce sondage publié cette semaine. Valérie Gasse, en tout cas cette phrase qui suscite polémique change la donne. On le voit en ce moment dans les négociations sur le budget et le gouvernement risque même d'être censuré.
Oui, ça a provoqué la colère des socialistes avec lesquels le Premier ministre négociait. Le Parti Socialiste a accusé François Bayrou de servir la soupe à l'extrême droite, a décidé d'arrêter les discussions. Il a demandé au Premier ministre de revenir sur ses propos, ce qu'il n'a pas fait. Et du coup, le PS n'exclut plus de se censurer le gouvernement. Et désormais, François Bayrou ne sait plus sur qui il peut compter. Pour amadouer les socialistes, il va certainement être obligé de leur faire de nouvelles concessions dans le cadre de la commission mixte paritaire sur le budget qui a lieu en ce moment.
Oui.
Et donc, il y a vraiment un coup politique pour François Bayrou à avoir prononcé ce mot de submersion, son alliance avec les socialistes est fragilisée, et ça redonne le pouvoir au RN d'être le parti qui peut décider du sort du gouvernement.
Voilà pour l'analyse politique de Valérie Gasse. Willy, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, merci beaucoup, Juan Gomez.
Et bonne journée à Lubumbashi, merci de votre fidélité.
À
très
vite.
Valérie Gasse, chef du service politique de RFI, prenez soin de votre voix.
Merci Juan.
9h16 à Paris, d'autres questions à la rédaction de RFI, vous nous appelez 33 9 693 693 70. Bonjour Banam.
Bonjour Juan Gomez, comment allez-vous ?
Très bien, et vous-même à Lomé au Togo ?
Tout va bien.
Tout va bien, vous avez des questions concernant la guerre en Ukraine ?
Absolument.
On vous écoute. Après les propos de Vladimir Poutine, allez-y.
Oui, Juan, j'ai entendu que Poutine serait ouvert à la négociation pour mettre fin au conflit en Ukraine. Mais pourquoi refuse-t-il de discuter directement avec Zelensky ? Si ce n'est avec le président ukrainien, avec qui Poutine pourrait-il accepter de négocier ?
Alors, ses propos, il les a tenus cette semaine, hein, lors d'une interview accordée à la télévision d'État. Il s'est dit effectivement prêt à des pourparlers de paix avec Kiev, mais pas question, a-t-il dit, de discuter directement avec son homologue ukrainien. Bonjour, Xenia Zornoklei.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste spécialisée pour la rédaction ukrainienne de RFI. Je reprends les propos de Poutine pour que les auditeurs les aient en tête. Il est possible de négocier avec n'importe qui, mais pas avec Volodymyr Zelensky. En raison de son illégitimité, a-t-il dit, et d'ajouter un peu plus tard, il ne peut pas signer de documents.
Oui, tout à fait. Selon Poutine, des négociations peuvent être menées par d'autres personnes, mais seuls des représentants légitimes pourraient signer un accord. Il dit que selon la constitution ukrainienne, c'est le président du Parlement qui pourrait être légitime pour conduire ou valider les discussions. En résumé, selon les Russes, l'Ukraine peut envoyer n'importe qui aux négociations, mais seules les personnes qu'il considère légitimes peuvent signer l'accord.
Alors expliquez-nous pourquoi le président russe ne considère pas Zelensky comme un président légitime.
Alors la Russie considère Zelensky comme illégitime à cause du report de l'élection présidentielle qui aurait dû avoir lieu en mars 2024. Mais cette position ne reflète pas la réalité juridique en Ukraine, car depuis l'invasion de 2022, la loi martiale est en vigueur. Il est donc interdit d'organiser des élections. Selon la constitution ukrainienne, en temps de guerre, le président reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit possible de tenir des élections en toute sécurité afin d'éviter un vide de pouvoir. L'argument de la Russie est en fait une stratégie politique pour affaiblir l'autorité ukrainienne et diviser les soutiens internationaux à Kiev. En réalité, la loi martiale permet à Zelensky de rester au pouvoir jusqu'à la fin du conflit.
Alors évidemment, Zelensky a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux aux déclarations de Vladimir Poutine.
Oui, Juan. Volodymyr Zelensky a déclaré hier que la position de Poutine montre qu'il a peur de négocier avec des dirigeants forts et cela confirme son désir de prolonger la guerre. Il a aussi souligné que sa légitimité vient du peuple ukrainien et non de Poutine, ajoutant que la seule légitimité de Poutine est celle qu'il se donne à lui-même.
Et de son côté, Zelensky, il a envie de négocier avec Vladimir Poutine ?
Il a fait savoir que oui, il est prêt, mais seulement après que la Russie ait retiré ses troupes de tous les territoires ukrainiens. Et ce qui est encore plus important, c'est que le Conseil de sécurité et de défense d'Ukraine a adopté un décret interdisant toute négociation avec Poutine. Et c'est là pour plusieurs raisons. Après l'invasion en 2022, l'Ukraine a voulu récupérer son territoire. Accepter des négociations pendant l'invasion aurait pu être perçu comme un compromis sur les territoires ukrainiens.
Bon, on va résumer parce que c'est vrai que la situation est un peu complexe. On a donc d'un côté Vladimir Poutine qui rejette tout dialogue avec Zelensky en invoquant une question de légitimité. Et de leur côté, les Ukrainiens, eux, disent « Eh bien, on n'a pas le droit de négocier directement avec la Russie tant que la guerre n'est pas terminée. » On voit mal comment on peut sortir de cette impasse.
Alors, si l'Ukraine et la Russie refusent de se parler directement, des négociations pourraient être facilitées par un pays tiers ou une organisation internationale. Des discussions indirectes via des représentants ou des canaux diplomatiques informels restent également possibles. La pression des alliés et la recherche d'un cessez-le-feu pourraient aussi ouvrir la voie à un dialogue. Et c'est un peu ce que Donald Trump est en train de faire en ce moment. Il demande à parler à Poutine et tant que cela ne se fait pas, il met la pression en suggérant que de nouvelles sanctions pourraient être mises en œuvre. Et si la Russie ne commence pas le dialogue, c'est la baisse des prix du pétrole dans le monde qui pourrait le forcer à négocier.
À suivre donc. Banham, a-t-on répondu à votre question ? Êtes-vous satisfait ?
Oui, je suis satisfait. Merci, Juan.
Bah, merci à vous et surtout un grand merci à Xenia Zornoklei, journaliste spécialisée pour la rédaction ukrainienne. Et si vous souhaitez évidemment réécouter les explications, séance de rattrapage à tout moment, quand vous le souhaitez, sur l'application RFI Pure Radio. Xenia, à bientôt.
À bientôt, merci.
Merci beaucoup. Il est 8h21 en temps universel. D'autres questions. On va parler de ce crash aérien survenu mercredi soir à Washington. Vous avez peut-être vu les images impressionnantes sur les réseaux sociaux. Bonjour Abdelrazak.
Bonjour Juan et bonjour à toute l'équipe de la Perte de l'actualité.
Et merci de nous appeler du Tchad. Vous êtes à Abéché. Quelles sont vos questions ?
À Washington, un hélicoptère de l'armée américaine est entré en collision avec un avion de ligne.
Oui.
À Washington, qui transportait 64 passagers. Alors, Juan, que sait-on des circonstances de ces crashs ? Et les pilotes n'avaient-ils pas reçu une alerte de la retour des contrôles ?
Alors, Abdelrazak, vous avez bien préparé vos questions. Merci en tout cas de votre confiance. C'est vrai, comment peut-on expliquer qu'un avion de ligne et un hélicoptère aient pu entrer en collision ? Bonjour, Bertrand Villemer.
Bonjour.
Merci de prendre quelques instants, d'être avec nous ce matin. Vous êtes expert en aéronautique auprès de la Cour de cassation. En cas d'accident, comment peut-on expliquer cet accident ? Quelles informations disposez-vous, Bertrand Villemer ?
Alors bien sûr, l'enquête le dira, et surtout pas le président Trump en ce moment. C'est fait une petite précision. Alors il y a différents éléments à prendre en compte. Le premier élément, c'est que les transits d'hélicoptères à Washington et au-dessus de la ville de Washington sont fréquents. C'est pas le cas dans de nombreuses capitales. Le deuxième point, c'est que la directive qui a été donnée par ou la question qui a posé le contrôle aérien au pilote de l'hélicoptère, il lui a posé comme question : est-ce que vous avez la vue sur l'avion de ligne ? Alors pourquoi il pose cette question ? Parce que l'avion de ligne, lui, il est en finale. C'est-à-dire qu'il est sur son axe, il vole aux instruments et il va se poser dans une minute ou deux. Donc lui, il n'est pas manœuvrant. Il n'est pas manœuvrant, il est sur un axe et il avance, c'est tout.
Et celui qui peut manœuvrer, lui, c'est l'hélicoptère, donc le pilote.
Oui, celui qui est. L'avion, il est manœuvrant, mais puisqu'il est sur son axe en train de se poser, il n'y a pas de raison de le dérouter ou de lui faire remettre les gaz. Donc lui, l'avion, on le laisse tranquille, il est sur son axe en finale et il va se poser. Et il y a un hélicoptère qui, lui, est en vol à vue et qui est manœuvrant et qui longe la partie est du Potomac.
Le fleuve.
Donc c'est tout à fait naturel que le contrôle demande au pilote de l'hélicoptère : est-ce que vous avez la vue, est-ce que vous avez le contact visuel sur l'avion ?
Et visiblement, le pilote de l'hélicoptère n'a jamais répondu à cette question.
Alors, c'est ça le sujet. Il lui pose cette question, c'est normal qu'il lui pose cette question. Là, il y a trois réponses possibles. Oui, j'ai visuel, auquel cas le contrôle lui dit bah, « passez derrière, vous laissez passer la finale qui va se poser, puis vous passez derrière l'avion, vous coupez l'axe derrière l'avion, ça c'est pas un problème. Deuxième réponse, non, j'ai pas visuel. Le contrôle lui dit, bah, prenez tel cap et prenez telle hauteur pour éviter la collision. Troisième réponse, et ça c'est la plus embêtante, c'est il n'y a pas de réponse. C'est le silence.
Et il n'y a pas
le silence, il est compréhensible. Parce que quand vous êtes dans un cockpit et qu'on vous demande si vous voyez un avion sur tel secteur, bah, la première chose que vous faites, c'est que vous regardez dehors. Et vous ne le voyez pas forcément tout de suite. Donc, il y a forcément un délai d'attente entre le moment où on vous demande si vous voyez quelque chose et le moment où vous le voyez. Et peut-être que vous n'allez pas arriver à le voir, d'ailleurs. Et donc, c'est ce délai qui est dangereux. Parce que si ce délai est trop long, et s'il y a une trajectoire collision, et là, c'était le cas, il y avait une trajectoire collision, et le contrôleur l'a vu, si ce délai est trop long, alors il y a collision.
Et c'est ce qui s'est malheureusement passé. Je rappelle le bilan, hein, 64 personnes à bord de cet avion, 3 à bord de l'hélicoptère, aucun survivant n'a pu être sauvé par les secouristes. On a retrouvé quand même les deux boîtes noires qui permettront peut-être d'en savoir plus, évidemment. L'enquête ne fait que commencer. Merci beaucoup Bertrand Villemer d'avoir pris quelques instants ce matin. Je rappelle que vous êtes expert en aéronautique auprès de la Cour de cassation en cas d'accident. Il est 9h25 à Paris, 8h25 en temps universel. Dans un petit quart d'heure, la Libre Antenne, évidemment, vos réactions sur l'actualité de votre choix. Et peut-être aurez-vous envie de réagir à ce sujet qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Un œil sur les réseaux. Bonjour Jessica Taïeb.
Bonjour Juan.
TikTok, Instagram, Facebook, X, rien ne vous échappe. Hein. Vous avez passé la semaine à scruter les réseaux sociaux. Et c'est vrai que cette semaine, dans l'actualité, on a constaté donc le retrait officiel du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la CEDEAO, trois pays qui depuis mercredi donc ne sont plus membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et ce qui suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, Jessica Taïeb, c'est cette vidéo très partagée sur TikTok et sur X.
Et la scène se déroule à Niamey, au Niger, lors d'une manifestation pour célébrer le divorce entre l'AES et l'organisation sous-régionale. On voit arriver, au milieu d'une foule hilare, un brancard transportant un faux cadavre. La civière est recouverte d'un drap avec le logo de la CEDEAO et la photo du président français Emmanuel Macron. Autour, des hommes en blouse blanche, déguisés en médecins, s'activent comme pour tenter une réanimation. En vain, la CEDEAO est morte et la foule simule son enterrement. Une mise en scène très théâtrale hein, qui a littéralement enflammé les réseaux sociaux. Et j'ai vu passer cette vidéo des milliers de fois sur TikTok et sur X, avec à chaque fois beaucoup de commentaires.
Oui, et des réactions qui cadrent avec l'ambiance pour le moins sarcastique de cette vidéo.
Et oui, de l'humour hein, dans les réactions sur X. Je vous en lis quelques-unes. C'est avec un cœur plein de joie et de bonheur que nous vous informons du décès de la CEDEAO. Elle laisse derrière elle une famille et des amis, précisément la France et ses alliés. On continue dans les condoléances, je cite, « La CEDEAO est morte d'une courte maladie et enterrée dans la zone des trois frontières, à savoir l'AES, RIP. » Et cet utilisateur hein, qui voit cette rupture comme un moyen d'aller vers l'avant pour le continent. Le décès de l'organisation symbolise un appel douloureux à l'unité et à l'émancipation collective. Paix à son âme et puisse sa mémoire éclairer la voie d'une Afrique résiliente et unie.
Oui, parmi les réactions, il y a notamment eu ce tweet hein, d'Abdourahmane Oumarou, un ancien député nigérien qui est aujourd'hui président de l'Union des Patriotes Panafricanistes. Adieu CEDEAO, vive la Confédération des États du Sahel. Prochaine étape, l'enterrement du franc CFA. La seule monnaie, a-t-il dit, coloniale encore en circulation dans le monde. En tout cas, Jessica Taïeb, comme à chaque fois, les avis sont partagés. Il y a les pour, il y a les contre. Et sur TikTok, notamment, on peut aussi lire des internautes pour qui cette simulation d'enterrement est lourde de conséquences.
Mais comme souvent sur les réseaux sociaux, hein, les contenus qui buzzent ne font pas l'unanimité. Et certains ne voient pas du tout d'un bon œil hein, la rupture entre le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la CEDEAO. Je vous partage quelques commentaires très agacés. Oui. C'est quoi cette parodie? Les conséquences de la sortie de la CEDEAO seront graves pour les ressortissants de ces pays, vous allez souffrir. Et cet internaute, pas vraiment impressionné par la mise en scène, je cite, « Malgré tout ce cirque, nous vous souhaitons bonne chance dans votre quête de paix et de bonheur. » Et on termine avec cette question. Entre vous et la CEDEAO, qui va survivre? On verra bien. Rendez-vous dans 10 ans.
Rendez-vous dans 10 ans. Merci beaucoup Jessica Taïeb. En tout cas, cet enterrement symbolique a été organisé, je le rappelle, donc à Niamey, au Niger, pour célébrer le départ de ces trois pays de la CEDEAO. L'organisation qui laisse tout de même 6 mois supplémentaires à ces trois pays pour qu'ils reviennent sur leur décision. La voie du dialogue reste ouverte. En substance, voilà ce que disent les membres encore présents au sein de cette organisation. Jessica Taïeb, merci beaucoup.
Merci.
Un œil sur les réseaux, c'est à réécouter évidemment sur l'application RFI Pure Radio et en images sur notre chaîne WhatsApp RFI Appel sur l'actualité. D'ailleurs, j'en profite, hein, si vous n'êtes toujours pas abonné à notre chaîne, faites-le dès maintenant. C'est facile, vous allez sur WhatsApp, vous cliquez sur les chaînes, vous nous recherchez RFI Appel sur l'actualité et vous serez en contact avec nous en permanence jour et nuit. Jour et nuit, c'est l'avantage des réseaux sociaux et ce sera l'occasion eh bien, de nous voir en images, d'avoir aussi des informations sur les coulisses de l'émission. On vous pose des questions souvent, vous savez, il y a des sondages et comme ça on recueille un peu vos opinions, votre avis. Donc voilà, rendez-vous dès maintenant sur la chaîne WhatsApp RFI Appel sur l'actualité. On va marquer une petite pause de 10 minutes, le temps de laisser la place à l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et on revient tout de suite après avec la Libre Antenne, votre Libre Antenne. Et je n'en doute pas, certains d'entre vous vont revenir justement sur le sujet de Jessica Taïeb, le retrait définitif de ces trois pays de l'AES de la CEDEAO. À tout de suite.